Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Désolé, un petit problème au démarrage. Problème résolu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour, bonjour. J'espère qu'on n'entend pas trop le ventilo. 5 sur 5, nickel, nickel chrome. Je baisse un tout petit peu la luminosité. Et on va... Salut Tristan! On va remercier effectivement nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Vivian G-M-I-N Gnin. Attends, je suis bien dans le bon numéro là. Oui. Jamoulox, Jean et Juliam. Merci beaucoup les contributeurs. Sans qui nous ne serions rien. Nous ne serions pas là. Nous serions... évanescent, poussière d'étoiles au milieu de l'univers. Ce qu'on est quand même, mais bon. Un peu moins grâce aux contributeurs. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. De quoi on va parler ce matin? Eh bien, ce matin, nous allons reparler de GitHub, puisque effectivement, il y a des conséquences à ce rachat de GitHub par Microsoft. D'abord, à qui Microsoft a-t-il soufflé GitHub? Eh bien, on s'aperçoit que Google et Amazon étaient aussi sur l'affaire et qu'on n'est pas passé loin d'un GitHub Google ou Amazon. Et justement, on verra la grande migration, puisque effectivement, le rachat de GitHub par un grand groupe tech n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Et le hashtag qui traîne dans ce milieu-là en ce moment, c'est « Moving to GitLab ». Et on verra que le premier jour de l'annonce, 13 000 projets ont basculé de GitHub à GitLab. On reviendra là-dessus. On parlera d'Amazon Prime hier... Amazon, à grand renfort de la presse, a lancé Echo en France et ils en profitent également pour inclure le streaming musical qui arrive dans Amazon Prime. Alors là, vous dites « Waouh, cool !» Avec déjà tout ce qu'on a dans Amazon Prime, en plus, on a la musique. Pas tout à fait, hein, on en parlera tout à l'heure. On parlera également de l'iPhone, la rumeur qui fait couler tant d'encre, parce qu'il faut toujours parler de l'iPhone si on veut faire des vues. Hein. Tous les jours, je devrais parler de l'iPhone, en fait. Là, c'est une grosse rumeur de baisse de prix énorme sur les iPhones. Mais que se passe-t-il? Vous le saurez en regardant l'épisode. Non, en suivant le Techscope ce matin. On parlera également de Parrot. Parrot qui revient sur le devant de la scène des drones en dégainant Anafi. Anafi, un drone pour concurrencer le DJI Mavic. On va plutôt le positionner vers le Mavic Pro et Mavic Air. Et on verra qu'ils offrent, en tout cas sur papier, des performances intéressantes dont on parlera, sachant qu'on ne l'a pas testé. On parlera d'Overwatch aussi, parce que, il n'y a pas que Fortnite dans la vie. On parlera également du rééquilibrage, en tout cas des nouveautés qui arrivent pour la grosse mise à jour Overwatch. Voilà en tout cas pour le Techscope de ce matin. J'espère que le sommaire vous plaît, j'en ai pas d'autres. J'espère que vous avez la forme. Qui choisit les noms chez Parrot? C'est vrai qu'Anafi, j'ai bien aimé d'ailleurs l'intro des numériques, ils mettent Anafi, on dirait une île un peu oubliée dans les Cyclades. C'est vrai que ça fait un peu île des Cyclades. Oh, il y a pire comme nom. Hein. Franchement, il y a pire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien arrimés à votre tasse de thé, café, chocolat, tout ce que vous buvez le matin. On va pouvoir démarrer ce matin, je crois que j'ai rien oublié. On va commencer effectivement par GitHub, parce que effectivement ce rachat fait couler beaucoup d'encre. Ça a secoué le monde informatique, mais ça secoue aussi les concurrents. Et c'est justement un peu le fond du problème pour certains. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que GitHub était sur le marché et qu'il y a eu des offres d'autres gros groupes informatiques. On sait maintenant, c'est confirmé, qu'Amazon et Google étaient aussi sur l'affaire. Ils étaient en train aussi de préparer l'acquisition. C'est Microsoft qui l'a remporté en faisant quand même un très gros chèque. Hein. 7,5 milliards de dollars. Je sais qu'il y a des rachats qui ont été plus gros que ça, mais c'est quand même énormément d'argent. Hein. On ne le réalise plus maintenant qu'on manie des 20 millions de dollars, des 20 milliards de dollars tous les matins avec ces grands groupes. Mais 7,5 milliards de dollars, fou, c'est un beau chèque. Hein. Merci Arnaud. 2 euros pour un retour rapide du mode non-miroir. C'est vrai, je ne suis pas en miroir là. Je ne suis pas à l'envers ce matin. Pourtant, je n'ai rien changé du tout. Je n'ai même pas fait de mise à jour de l'app, rien. Je suis en miroir ou pas? Vous voyez le... Ah non, c'était pour... Si, si, je suis à l'envers, oui, oui, oui. Alors, je me suis aperçu que en fait, de toute façon, c'est que la caméra frontale hein, qui met à l'envers. Et je suis à l'envers aussi quand je fais des Instagram Stories. Je n'avais pas l'impression d'être à l'envers avant. Le problème, c'est que sur un iPhone, on n'a aucun réglage pour le sens de la caméra. Ah oui, d'accord. C'était parce qu'il était 8h08. Ok, ok, ok. Ouais, bah je n'ai pas de solution pour l'instant à ce problème. Donc, ça va être des patchs, je pense. Mais je n'avais jamais remarqué que sur Instagram... Je sais que les selfies sont souvent inversées. Ouais, bon, bref. Et d'ailleurs, Samuel a testé avec un Android, il a le même problème. Donc, c'est avec les caméras de façade. Bref, allez, on continue, parce qu'on n'est pas là pour parler des problèmes d'image inversée qui, à part pour regarder l'heure, ne sont pas très graves. Donc, ce que j'étais en train de dire, les deux mastodontes Google et Amazon sont très fortement impliqués dans le monde du code. Donc, c'est sûr que GitHub les intéressait. C'est vrai que Google avait fermé son propre service Google Code parce qu'il n'avait pas résisté justement à GitHub, qui est une plateforme énorme, et il n'avait pas réussi à attirer les développeurs à Google Code. Donc, généralement, quand un de ces gros, ils essayent de monter un truc, ça se foire. Après, ils essaient de le racheter, quoi. On peut parler aussi d'Amazon. Amazon, on sait qu'en matière de développement, ils recrutent beaucoup. Ils s'intéressent pas mal à tout ce qui est code. Et que, on ne dirait pas, mais derrière Amazon, il y a énormément de développement, quoi. Donc, ça les aurait intéressés. Surtout qu'ils ont un certain nombre de services qui peuvent servir aussi derrière et être vendus derrière. Donc, ça aurait été assez intéressant. Ce qu'on peut juste se dire, c'est que de Carib en Scylla en Carib, si, quel que soit le rachat, que ce soit Microsoft, Google ou Amazon, ça aurait gueulé, de toute façon, côté développeur. Et ça aurait gueulé, et j'enchaîne avec élégance sur le deuxième article, ça a gueulé, et c'était un petit peu normal, puisque en une heure, 13 000 projets ont été basculés de GitHub à GitLab. Donc, beaucoup de développeurs ont opté pour l'alternative qui s'appelle GitLab. Donc, 13 000 projets ont très vite quitté, mais beaucoup plus. Les patrons de GitLab disent qu'ils alignent les serveurs en catastrophe là, en ce moment, parce que beaucoup de monde arrive du coup sur GitLab. Pour la petite histoire et qui fera sourire, il faut savoir que GitLab avant était hébergé par le cloud Microsoft Azure et maintenant ils sont chez Google Cloud Platform. Mm-hmm. Est-ce que Google Cloud Platform leur a fait un prix histoire de faire chier Microsoft Azure? Mm-hmm. À voir. Est-ce que GitLab ne risque pas un rachat aussi? Bah si mon neveu, hein. Vous achetez un truc, vous partez quelque part et floup, c'est racheté. Donc, effectivement, cette vague de migration prouve bien que ce rachat n'a vraiment pas plu à une partie de la communauté des développeurs, même si d'autres nuancent en disant c'était ça ou la disparition pure ou simple de GitLab, de GitHub. Ce qui est preuve d'un certain réalisme aussi. C'est bien gentil de dire « Ah, mais c'est un scandale !» Mais quand tu as le choix entre disparaître et être racheté, il y a un moment... Alors oui, le cycle va s'ouvrir, mais le truc, c'est que ce qui peut être inquiétant pour GitLab, mettez-vous à la place des patrons de ces boîtes-là. T'as GitHub, qui est la plus grosse plateforme, qui n'arrive pas à trouver même une rentabilité. Je ne parle même pas de faire du profit, ce que normalement doit faire une entreprise, mais n'arrive pas à être rentable, perd de l'argent qui est comme vache qui pisse. Ils se cassent la gueule, donc ils se font racheter, parce qu'ils ont besoin d'argent frais pour continuer. C'est typique, comme on disait hier, c'est un peu comme Twitter. GitHub, c'est le genre de truc indispensable, hyper utile, mais très difficile à rentabiliser, manifestement. Tout le monde part chez GitLab. Le mec de GitLab, il est obligé d'aligner des serveurs, il est obligé d'aligner de la bande passante. Tout ça lui coûte. Et c'est dangereux pour lui. Sur le web, il y a ce phénomène étrange que parfois, un succès, s'il n'est pas accompagné d'un bon business model, un succès et un grand nombre d'utilisateurs peut tuer une idée. On a vu déjà des startups mourir sous leur succès. Parce que le succès coûte cher sur le web. Il faut payer l'infrastructure. On le voit, n'importe quelle entreprise du web qui fait du sizing, qui est obligée de grossir, devient vulnérable, devient fragile, n'arrive pas à offrir le même service et la même qualité de service. Donc oui, c'est un cycle infernal. Donc, je reproche pas de dire attention, logiciel libre, pourquoi ça a été racheté par un gros truc, perte d'indépendance, etc. Je suis le premier à dire attention, il faut qu'on soit vigilant sur le pouvoir de ces gros groupes. Après, il faut faire preuve d'un certain réalisme. Une bonne idée, ça suffit pas. Il faut qu'une bonne idée ramène déjà suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à se développer. Je parle même pas de survivre. Je parle de continuer à se développer. Donc, elle doit faire du profit. Ah, le mauvais mot. c'est dingue comme en France, profit a une connotation, mais ultra péjorative. Et même, normalement, une boîte doit aller au-delà de ça. Elle doit effectivement avoir une capacité d'investir, de grossir, d'aller sur des nouveaux marchés, etc. Et pour ça, il faut qu'elle soit plus que rentable. Il faut qu'elle dégage de l'argent. Bon, sinon, on monte une assos. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il y a la place aujourd'hui. GitLab, je connais pas leur statut, etc. Peut-être qu'ils font un truc sur un mode associatif, quoi. Ben, je sais pas si vous suivez mon Twitter, mais hier, j'ai tweeté une vidéo intéressante. Vous allez dire, Jérôme, focus, mais attendez de voir où je veux en venir. C'est une vidéo qui a été faite par Caleb Pike sur le prix d'une vidéo. Et il parle avec un de ses potes de combien ils facturent la production d'une vidéo. Donc comment ils font leur tableau Excel pour les prix, etc. Et les mecs, c'est des Américains, donc eux, ils n'ont pas effectivement notre rapport à l'argent. Et il dit un truc, et j'ai percuté en me disant, mais c'est dingue, en France, on oublie cette évidence. Le mec dit à la fin, quand vous vendez une vidéo, n'oubliez pas de vous faire de la marge. N'oubliez pas de vous faire du profit. Parce que sinon, vous n'êtes qu'une entreprise de transformation d'argent. Vous transformez de l'argent en un bien sans faire de profit. Finalement, vous n'avez créé aucune valeur, en fait. Et votre entreprise ne peut pas prospérer parce que tout ce que vous aurez fait, c'est amortir vos coûts de production. Et c'est dingue, je regardais ça en me disant, putain, mais en France, on lutte déjà pour rendre des trucs rentables. Et dès qu'on dit, oh putain, il faut qu'on fasse de la marge, c'est presque comme si on invoquait le mal, quoi. Donc, c'est désolé de partir sur ces trucs économiques, mais c'est un truc qu'on oublie trop souvent. Ce qui est utile n'est pas forcément rentable. Et quelque chose qui n'est pas rentable et qui ne dégage pas de profit disparaît. Sauf en mode associatif. Mais le problème du mode associatif, je vous en ai souvent parlé avec Wikipédia, etc., c'est que les marges d'innovation, de progrès et d'investissement d'une association sont très faibles. Donc une association a tendance à stagner en termes de progrès, en fait. Une assoc ne peut pas racheter des boîtes. Une assoc ne peut pas prospérer, justement. Donc c'est de l'économie de base, mais je pense qu'il est de bon ton de le rappeler de temps en temps. Et je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est une vision personnelle de l'économie que j'ai. on pourrait peut-être y arriver. Les GitHub qui ont migré, là, depuis le rachat par Microsoft, des développeurs dans la chatroom. Ne répondez pas à ceux qui n'ont pas migré, mais est-ce qu'il y en a qui ont migré ? Leur projet de GitHub à ailleurs. Oui, je sais, tout à ça, ce n'est pas à but non lucratif, mais la comptabilité, enfin la gestion d'une ASOS reste quand même sur un modèle de ne pas faire de profit. D'être rentable, en fait. C'est presque une philosophie. Microsoft devrait revendre GitHub pour lutter contre la faim dans le monde. Je ne pense pas que ça suffirait, hélas. Toujours utiliser GitLab pour toi, d'accord. Toujours GitHub, d'accord. Bon, il y a personne qui a vraiment migré, mais en tout cas, on a une personne qui utilise déjà GitLab. T'as jamais aimé GitHub à cause des DMCA, d'accord. Oui, enfin Patrick, là c'est un procès d'intention. Je veux dire, si t'es un jusqu'au boutiste, je ne veux appartenir à personne, c'est très difficile de travailler aussi. On peut se passer de Google, mais ça ne te rend pas forcément la vie simple. On peut se passer d'acheter un ordinateur de marque, mais ça ne te rend pas forcément la vie simple. Enfin voilà quoi. Si tout le monde se casse de GitHub, il risque de pas revendre. Le truc, c'est que même si 13 000 projets ont migré, je ne sais pas combien il y a de projets sur GitHub. Est-ce que c'est une grosse hémorragie ou pas ? J'ai pas l'impression. C'est significatif. C'est un mouvement probablement d'humeur. Est-ce que ça va tuer GitHub ? Je ne crois pas qu'on en y est encore. Ben, GitLab, c'est comme GitHub. En fait, j'ai l'impression, hein, c'est à peu près pareil. Marion vous a expliqué hein, ce que c'était que ces plateformes. Donc, regardez le Techscope d'hier, je crois. Non. Ah oui, celui de lundi, celui de lundi. Oui, 13 000 projets, ça ne veut pas dire 13 000 entreprises. Pose-moi, Mathieu, merci beaucoup pour ton super chat, mais si je te réponds là en beau milieu d'émission... Est-ce que tu peux essayer de me reposer la question ? Je note que tu es prio parce que tu as mis un super chat. Je te parlerai du Road Reporter plutôt en fin d'émission. Pour pas que ça soit trop le bazar. Allez, Amazon. On va parler d'Amazon Prime. On change donc de sujet. Vous le savez, hein, il y a beaucoup d'articles dans toute la presse tech et même dans toute la presse sur la sortie d'Amazon Echo. Donc, gros lancement, hein, Amazon Echo, là, ils y vont fort. Et c'est vrai que les prix sont très, très agressifs sur l'Amazon Echo. Mais ça ne suffit pas, Amazon. Ils consolident leur abonnement Prime. Ils incluent un accès au catalogue musical dans Amazon Prime. Alors, attention, attention. Ne vous dites pas, Amazon Prime, c'est combien ? C'est 5 euros quelque chose, je crois. 5,99 euros par mois. Amazon Prime, ne vous dites pas que vous allez avoir accès à un catalogue entier. Non, c'est un accès partiel. En fait, il sera assez limité. Vous n'aurez accès qu'à 2 millions de titres. Et oui, c'est 50 euros par an. Donc, ce qui revient à 6 euros par mois. À peu près. 49 euros par an. OK. Donc, vous n'aurez que 2 millions de titres et vous ne pourrez pas écouter plus de 40 heures de musique par mois. Donc, il y a quand même des limitations assez sérieuses. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise offre ? Dans l'absolu, non, parce que n'oubliez pas que Prime, vous avez des tas d'autres choses dedans. Et pour quelqu'un... Oui, moi je suis Amazon Prime. Pour quelqu'un qui écoute finalement assez peu de musique et qui écoute, qui n'a pas besoin d'un choix de titres de folie, ça peut être pas mal, parce que en plus de Prime qui lui offre quand même ses livraisons Amazon, à l'origine, rien que pour ça, c'est rentable pour moi, Prime. Mais en plus, j'ai accès aux vidéos Prime, j'ai accès à une bibliothèque de prêt Kindle, aux séries Prime originales, les exclusivités sur Prime Vidéo et bien sûr la livraison en un jour ouvré. Donc c'est juste un petit bonus qui se rajoute au Prime. Qui dans la chatroom a Prime ? Je serais curieux de savoir. Qui a Amazon Prime pour voir la puissance du truc ? On est 252 en live. Qui a Prime ? Ah, il y a du monde. C'est dingue, hein, ça a cartonné. Pourtant, ils perdent de l'argent sur Prime et Amazon. Mais ils gagnent des clients. Et surtout, ils gagnent de la fidélisation. Et ça n'a pas de prix. Ouais, on est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à utiliser Prime quand même. Bah, c'est vrai que le calcul est quand même vite fait, quoi. Il suffit que tu fasses une ou deux livraisons dans l'année et tu as amorti ton Prime. Hein. Quasiment. Ça dépend où tu te fais livrer, ce que tu te fais livrer. Tu as vendu ton âme au diable. Oh, Maxime, ne te défauste pas. Il est nul, mon jeu de mots. Il y a un sub sur... Oui, il y a aussi le sub sur Twitch. C'est vrai que j'avais oublié ça. Mais ça a quelque chose. C'est là où ils sont très forts. On peut détester Amazon et je le comprends tout à fait. Mais on ne peut qu'en reconnaître qu'ils sont très forts. Avec Prime, tu as l'impression qu'on te rajoute des cadeaux tout le temps. Donc, tu n'as pas envie de les quitter, quoi. Tu dis, ah, tiens, putain, maintenant j'ai la vidéo. Ah, j'ai des trucs sur Twitch. Ah, j'ai... Non, franchement... T'as pas envie de quitter Prime. Et ils sont assez bons là-dessus. Le stockage photo illimité, il y a encore ça. J'avoue que je n'ai jamais utilisé. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur Prime, là je sors un peu du sujet, mais c'est important de le comprendre, Amazon ne gagne pas d'argent et voire en perd avec Prime. Parce que les gens se font quand même livrer beaucoup de choses et ça coûte cher les livraisons. Le truc, c'est que par contre, ils gagnent un truc hyper précieux avec Prime. Ils gagnent votre fidélité. De toute façon, tout Amazon est taillé jusqu'au point virgule près pour que vous alliez pas ailleurs. Et leur service est tellement, je le dis, hein, c'est tellement supérieur à tout ce qu'on peut trouver. Je parle juste en termes d'interface. Je parle pas forcément en termes d'offres. Mais d'interface, de fluidité, de la consommation, ce qu'on appelle le tunnel d'achat dans le métier, il est tellement huilé que tu ne peux pas t'empêcher d'acheter des trucs sur Amazon. Ce que je disais l'autre jour à Albert, c'est que Amazon, c'est comme si tu avais une espèce de liste de courses qui t'achetait les trucs tout seul. Quand tu penses à un truc, tu l'achètes tout de suite sur Amazon. Et c'est ça qui est effrayant, en fait. Ils ont trouvé le modèle commercial quasi parfait. Ben, le service vidéo, ça, on l'a depuis longtemps, hein, Kevin. Service vidéo, tu l'as depuis longtemps. Hein. Oui, Alexa est sorti en français hier. Le réflexe Amazon, exactement. Donc voilà, vous aurez un peu de musique avec votre Amazon Prime. Ça ne remplacera pas un vrai forfait de streaming, mais ça peut le faire. Ça peut le faire... D'ailleurs, pour vos enfants, peut-être, ou pour une utilisation secondaire, quoi. Allez, on continue. On va parler d'iPhone. On va parler d'iPhone pas cher. Mais que se passe-t-il des iPhone pas chers? Mais c'est comme si l'image s'inversait sur Techscope. C'est les pôles qui s'inversent. C'est le monde à l'envers. Nous allons tous tomber dans le vide. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Des iPhone pas chers, ça ne peut pas exister. Sinon, c'est pas des iPhone. Hein? Vous me dites. Et bon, et pourtant, Ming-Chi Kuo, que nous connaissons bien, qui est un spécialiste de la rumeur Apple, dit, eh bien, détrompez-vous. Le monde va s'inverser. L'axe de la planète va tourner puisque Apple prépare des prix foudroyants sur la nouvelle gamme de smartphones pour... Marion, c'est... ce Techscope bombing. Viens dire bonjour.
Bonjour.
Marion est là. iPhone fausse news. Alors, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Alors, quels sont ses arguments à notre fameux Ming-Chi Kuo, hein, qu'on appellera Ming-Chi ou Ming entre nous parce qu'on est potes et que c'est plus facile. Eh bien, lui, il dit, il y a trois phénomènes qui font qu'Apple va réduire drastiquement les prix de ses iPhones. Ouais, même Marion est en mode miroir. On veut tellement vous faire croire qu'on ne filme pas sur écran vert qu'en fait, cette image inversée est un grand complot. Ça, il faut que vous le réalisiez. Tu es iPhobe au prix bas. Bon, lui dit il y a trois facteurs qui font que Apple va diminuer drastiquement ses prix. D'abord, d'abord parlons des prix. Lui dit que le haut de gamme du prochain iPhone 10 ou 11 ou iPhone 10, comment se fait-ce alors que l'année dernière c'était au prix d'un SMIC? Ou alors c'est peut-être le SMIC qui diminue. Autre hypothèse. On a une coupure là. Vous avez une coupure? Est-ce que je suis encore en ligne? Vous me recevez? Vous me recevez? Bon, c'est bon, c'est revenu. Bon, cette coupure, vous pourrez engueuler Marion pour cette coupure, parce que Marion a dû faire une fausse manip, et comme elle est dans les VIP de mon téléphone, c'est une des seules qui peut m'appeler pendant le Techscope, et là, elle a essayé de me faire un appel FaceTime, mais je pense qu'elle a dû appuyer sur un mauvais bouton, en fait. Donc, c'est de la faute de Marion, cette coupure. Donc, vous pourrez lui dire merci Marion pour la coupure de ce matin. Hashtag merci Marion. Marion se bug. Son écran était inversé. Le monde entier est à l'envers. On est en train de parler d'iPhone pas cher. Bref, lui dit quels sont les facteurs qui vont faire que Apple va casser les prix de ses iPhones. Alors d'abord, en interne, Apple aurait exprimé des inquiétudes concernant l'impact négatif des prix plus élevés sur la dynamique des ventes sur un marché mature. En gros, le marché des smartphones est mature. Apple a tenté le smartphone à plus de 1 000 $ avec l'iPhone 10 en se disant « Et maintenant, il y a tout qui s'éteint chez moi. » Ah non, mais c'est Marion qui nous fait des blagues, hein. Je vais rallumer. Hop. Putain, on n'a toujours pas réparé ce problème. Marion a décidé de saboter mon Techscope, sans le savoir en fait. Mais je crois que comme elle est partie de chez moi, ça me confirme, elle est partie de chez moi, donc genre 10 minutes ou 5 minutes après, les lumières, les Philips Hue tombent. Donc, j'essaye de revenir dans mon article. Ça, c'est le premier truc. En fait, d'après cette analyse, Apple aurait jugé que les ventes de l'iPhone 10 étaient décevantes dans le sens pas qu'ils en aient pas vendu beaucoup, mais ça n'a pas déclenché un super cycle de vente. Ce qu'ils espéraient avec le 10e anniversaire de la marque et un design innovant. Donc, ils ont estimé qu'ils avaient positionné l'iPhone trop cher. La deuxième chose, c'est que Apple aurait développé un modèle de prix amélioré avec un meilleur rendement des chaînes d'assemblage. En gros, en tuant plus d'enfants chinois pour produire leur iPhone, ils sont arrivés à un meilleur rendement. Je suis cynique, hein. Mais c'est surtout des composants moins chers. À mon avis, Apple a dû faire grosse pression sur ses fournisseurs. Et qui sait, peut-être qu'ils sont arrivés à renégocier avec Samsung le prix des écrans OLED. Et souvenez-vous, si vous êtes un vieux de la vieille de Techscope, est-ce que j'avais pas pronostiqué ça? J'avais pas dit que les rumeurs selon quoi finalement Apple n'allait pas sortir des écrans OLED dans sa prochaine génération et que les ventes de l'iPhone X étaient un peu décevantes, finalement, ça mettait une grosse pression sur Samsung. Merci Arnaud pour les enfants chinois, pour ton super chat. Est-ce que j'avais pas dit que Apple faisait courir une fausse rumeur là-dessus pour essayer de foutre la pression sur son fournisseur Samsung d'écran OLED? Est-ce que je l'avais pas dit ça? Si, j'ai dit ça. Si, j'ai dit ça. J'en étais sûr. Bref, tout ce modèle de production permettra à Apple de baisser les prix sans trop jouer sur ses marges. Chez Apple, la marge, c'est sacré. Ils y toucheront pas. C'est, je crois, 32% la marge. On n'a pas Samuel pour confirmer que je l'ai dit. Bon, bah, il faudra remonter dans les archives, hein, les gens. Il faut retrouver le jour où il y avait un article sur Apple ne ferait moins d'iPhone OLED. Merci Vincent. Je me souviens qu'en 1996, tu avais dit qu'Apple allait arrêter les clones. Exactement. Donc, réduire le tarif de fabrication permet de réduire les prix sans diminuer sa marge. C'est des mathématiques. Et même si ça vous fait gueuler, s'il y a un truc qui changera jamais chez Apple, c'est pas tant les prix, c'est leur marge. Apple, c'est le... pour, en tout cas, financièrement, c'est le secret de leur réussite. Apple n'a jamais transigé sur ses marges. Apple a toujours eu des marges très conséquentes et design tous ses produits pour pouvoir faire cette marge-là. Oui, je m'en rappelle, c'est pas si vieux. Merci Romain aussi. Vers février, voilà. Bref, et le dernier petit composant, c'est que les prix réduiront par effet de rebond, puisque Apple, a priori, va changer de chargeur. Donc, on n'aura pas à acheter en plus un chargeur rapide si on veut recharger l'iPhone rapidement. Donc, ce qu'Apple espère avec ça, c'est déclencher ce super cycle de vente un an après ce qu'ils avaient prévu, mais ils en ont probablement besoin pour continuer à être aussi florissant en bourse. Donc, on verra. Paradoxalement, effectivement, en fait, je trouve que les arguments sont pas mauvais et me feraient presque croire à cette baisse de prix. Il y a un an, je vous aurais dit, c'est impossible. Apple ne baissera pas ses prix parce que ça toucherait à son image de marque. Mais aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Parce que Apple, notamment avec Face ID, il sait qu'il a un avantage sur la concurrence d'à peu près 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Avant que les autres arrivent à faire un Face ID aussi performant que celui d'Apple. Donc aujourd'hui, il rentre dans un cycle de recrutement, je pense. Il faut mettre l'iPhone dans un maximum de mains, d'un maximum de gens pour reprendre des parts de marché avec l'écosystème Apple. Oui, non, mais tout le monde a un Face ID, Pascal. Moi, tous les tests que je vois des Face ID un petit peu sérieux, c'est des bons Face ID. Hein. Moi, je peux vous dire, par exemple, le Face ID de la Surface Pro, il est bon, hein. Mais ça n'a quand même rien à voir avec le Face ID de l'iPhone X. Honnêtement, ça n'a rien à voir. De ce que j'ai testé. Hein. Le Face ID qui marche complètement dans le noir quand vous êtes de traviole. Alors, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'il était parfait, celui d'Apple. Mais parfois, il marche, il me bluffe. Hein. Genre, j'ai ma cagoule. Enfin, j'ai ma capuche, j'ai des lunettes de soleil, il arrive à m'en connaître, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Face ID est une stratégie beaucoup plus complexe que juste un déverrouillage de smartphone chez Apple. Ça va être une manière de sécuriser tout un tas de services en les rendant moins contraignants à l'accès que n'était l'empreinte digitale. Mais avec un niveau de sécurité suffisant. Oui, il a appris à me reconnaître avec mes lunettes. Par exemple, moi, avant, il ne me reconnaissait pas avec mes lunettes de soleil, parce que j'ai des lunettes de soleil miroir. Maintenant, il arrive à me reconnaître avec mes lunettes de soleil, quoi. C'est vrai, il me reconnaît quand je fais un masque au concombre. Oh putain. Oh, j'aurais dû faire ça pour le test du Face ID. S'ils sortent un iPad, promis, je me mets des concombres sur la gueule pour tester le Face ID. Voir s'il y a du progrès. Et oui, et je vois, oui, non, mais alors, ajouter le visage de Marion sur mon smartphone. Parce que Marion, par contre, et c'est le contraire. Face ID ne marche pas du tout avec le visage de Marion. Marion a un visage qui ne marche pas avec la reconnaissance de visage. Elle a un visage sans gens, en fait. Je sais pas. Et c'est vrai, hein, il marche pas super bien avec Marion, hein, le Face ID. Le reflet dans les piercings. Non, je pense. Alors, personnellement, je pense que ça vient de sa coiffure qui est assez changeante quand même. Et que entre le forme de visage qu'elle a avec ses cheveux relâchés et les cheveux tirés, il doit avoir du mal à reconnaître. Je pense. Non, non, c'est pas son iPhone qui déconne. On a testé. Et, non, non, elle a vraiment. Il y a vraiment un problème. C'est, voilà, Marion, tu te métamorphes. Ouh. Ah. Bref. Donc, on verra, hein, on verra cette baisse de prix. Moi, je pense que, alors, ça tout dépend comment ils vont la présenter. Mais, moi, ce qui me fait peur avec cette nouvelle, c'est que j'ai bien peur qu'Apple n'ait pas beaucoup de nouveautés pour cette année. Et finalement, leur effet waouh, ça va juste être une baisse de prix. On verra. On verra, on verra. On verra, on verra. Change ta coiffure et prends une Apple Watch. Ouais, tu vas la mettre de mauvaise humeur. Hein. C'est déjà une énorme une baisse de prix. Bah, surtout qu'il parle quand même de baisse de prix de $200, quoi. C'est quand même... Non, l'autre rumeur, c'est qu'au contraire, ils auraient tous des écrans AMOLED. Donc, la rumeur, donc vers février, qu'ils allaient... ils allaient pas trop faire de smartphones OLED, eh bien, s'avère a priori fausse, en tout cas pour les rumeurs. T'inquiète pas, Mathieu, je vais pas oublier le Rode Reporter. Allez, je vais un petit peu plus vite parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on va parler effectivement de Parrot. Parrot qui revient sur le monde des drones, on va dire grand public et caméras volantes surtout, avec un affi, avec un prix là aussi, puisqu'on est dans les prix assez agressifs hein, quand même, puisqu'il est proposé, en tout cas, au lancement à... Ah, j'avais entouré le prix. À 700 euros. Donc, 150 euros moins cher que le Mavic Air à la sortie du Mavic Air. Donc, un prix assez compétitif avec ce que fait DJI et des perfs, en tout cas sur papier. Oui, 699 euros, ça veut dire 700 euros, hein, Steph. 699, c'est un 600 euros marketing pour que tu te dises, oh, je dépense que 600 euros parce que les 99, ton esprit les chante. Et oui, c'est ça qu'on appelle un prix psychologique. Voler français, absolument, hein, comme disait Arsène. et Parrot. Anafi, donc ça sera un drone pliable équipé d'une caméra 4K HDR avec une stabilisation hybride 3 axes et d'une batterie rechargeable par USB-C. Je viens juste sur ce petit point, c'est génial ça. Les batteries rechargeables par USB-C, ça va ajouter voilà, vous pourrez prendre un chargeur externe USB-C pour votre smartphone machin et recharger vos batteries de drone. C'est une révolution. Enfin, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Ça évite d'amener le gros chargeur de son drone et tout ça et de trouver une prise obligatoirement ou d'avoir l'allume-cigare ou ce genre de truc, quoi. 700 euros, c'est du vol. Oh, Michel. Elle vaut 1 euro, ta blague. Donc, puisqu'on est intéressé par la photo, on aura effectivement une caméra montée sur une nacelle stabilisée, deux axes mécaniques, avec un capteur CMOS 1,2,4 pouces, 21 mégapixels, objectif à lentille asphérique couvrant un champ de 84 degrés à f2.4. A priori, il sera possible d'exploiter un zoom numérique sans perte pour atteindre un équivalent 69 mm en photo et 78 mm en photo. Donc ça, c'est zoom x 2,8 en photo et zoom x 1,4 en vidéo. Une sensibilité donnée dans une fourchette allant de 100 à 3200 ISO et un obturateur capable de descendre jusqu'au 1/10 millième de seconde. On pourra filmer en 4K ciné, la vraie 4K, 4096 par 2160 en 24 images secondes, donc format cinéma. On pourra filmer en 4K UHD en 30 images secondes et en Full HD 1080 en 60 images secondes avec un débit assez prometteur de 100 mégabits secondes, de 100 MO secondes. Oui. Il sera possible d'enregistrer en RAW. Alors là, j'ai une inconnue. RAW vidéo ou RAW photo? Je pense RAW photo. En photo... Ah oui. Vous n'avez pas placé les virgules où il fallait, là... c'est qui a écrit cet article? Qu'on les engueule. Les numériques, hein? C'est quoi ce bordel avec les virgules? Après, Jérôme, il dit n'importe quoi. RAW photo... Et il y aura un mode PLOG. Ça, c'est cool. Oui, je pense que c'est du 100 mégabits seconde, Pascal. Je suis... le bitrate, ça se compte bien en mégabits seconde? Je sais plus, le bitrate. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute. Bon, enfin bref. Donc du log, ça c'est une bonne nouvelle pour les vidéastes. Il y aura une double stabilisation mécanique plus une stabilisation logicielle 3 axes, roulis, lacets et tangage. Un truc qu'ils vont avoir d'unique par rapport au DJI, c'est que vous pourrez orienter la nacelle vers le haut aussi. Il faut voir le design de la bête, je vais vous le montrer. Donc vous pourrez filmer en contre-plongée. Ça peut donner des plans intéressants. Le truc, et c'est toujours pareil avec un drone, c'est que les performances de la caméra, c'est une chose. Les performances de vol, c'en est une autre. On sait qu'il y a une chose qui est inquiétante, c'est qu'a priori, il ne sera pas piloté par onde radio, mais par Wi-Fi. Et on sait que le Wi-Fi, c'est absolument pas aussi fiable que la radio. Donc moi, j'avoue que c'est le truc qui m'inquiète sur ce drone et qu'il va falloir attendre les premiers vrais tests un peu. Je vais vous le mettre en plein écran. Il y a une portée de 4 km. Ah ouais, non, ça ne peut pas être du Wi-Fi, 4 km. Je trouve qu'en design, il n'est pas super joli, mais il a l'air efficace. Ce qui m'inquiète un peu, et les spécialistes me donneront leur avis, je trouve que pour un film publicitaire où normalement on prend vraiment les meilleurs plans, il y a certains plans qui ont l'air un peu saccadés. Ça n'a pas l'air méga, méga fluide. Mais c'est peut-être moi. Mais il a l'air sympa quand même. Honnêtement, si je pouvais tester facilement des drones ou si Parrot me payait un voyage en Corse, wink wink de High Collection, je le testerais bien. Mais j'ai pas envie de me faire chier à trouver encore un endroit autour de Paris pour le tester. Oui, manifestement, tu pourras décoller en le lançant vers le haut. Honnêtement, j'ai pas tous les détails. Hein. Mais bon, Parrot, si vous voulez m'envoyer en Corse, alors c'est sûr que j'aurai pas la primauté de la vidéo, mais moi, il n'y a pas de problème pour aller le tester. Hein. Appelez-moi. Hein. Bon, en tout cas, on ne peut que se réjouir, et au-delà du cocorico, on ne peut que se réjouir que DJI y ait de la concurrence. On espère que ce drone sera à la hauteur pour... tailler un petit peu des croupières à DJI. Je dis pas ça parce que j'aime pas DJI. Je dis ça parce que c'est jamais bon qu'un acteur soit seul sur son marché. Voilà. Oui, il y aura. Oui, j'ai pas parlé de tout, mais tu pourras faire un effet parallaxe. Il y aura un effet parallaxe programmé. Il y aura pas mal d'effets programmés, en fait. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La liaison DJI Mavic donnée pour 4 km et Wi-Fi. Hein? Bon. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste, hein, mais. Les plans, le drone apparaît tourné avec un Mavic. Ouais, non, quand même, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Tous les drones. Ouais, mais là, c'est pas un drone de loisir. Hein. C'est une vraie caméra volante. Il est positionné comme une caméra volante pour vidéaste. Justement, Parrot change de positionnement. Ils ne veulent plus être dans les drones jouets. Ils veulent être dans les drones qui servent aux vidéastes, quoi. Alors, effectivement, la grande inconnue, c'est quid des capteurs de collision, quid de l'intelligence artificielle de ce drone et de ses capacités de vol et de sécurisation du vol. Ça, c'est ça où il va falloir attendre le vrai test, quoi. On pourra... Ah non, Tristan, Albert ne veut, et il a raison, SOS Ciné et SOS Shoot, on ne louera jamais de drone. Le problème, c'est qu'avec la législation des drones, ça serait très contraignant de louer des drones. Il faudrait vérifier des permis de voler professionnels pour tout le monde. Enfin, ça serait très, très difficile. Et en plus, vu le taux de crash des drones, c'est pas un bon truc à louer, quoi. Apparemment, pas de capteur de collision. En tout cas, ils n'en parlent pas dans l'article. Donc ça, je dois avouer que c'est assez... C'est inquiétant pour un débutant en drone, oui. C'est pas top. Mais honnêtement, l'article est très succinct. Je sais que c'était hier que j'étais invité au truc de presse où je n'ai pas pu y aller. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc c'est frais hein, comme news. Après, il y a, je sais pas si d'autres que The Eye Collection ont pu le tester parce que The Eye Collection il a tourné ses plans en Corse il y a déjà 2 semaines hein. Donc il l'avait en exclu quoi. 01 net aussi là. Bon, on verra en tout cas pour les capteurs de collision. Allez, on termine. Je vais aller vite, hein, juste parce que je sais que certains d'entre vous sont des amateurs d'Overwatch, joueurs d'Overwatch. Hein, il n'y a pas que Fortnite. Hein. Revenez un peu à Overwatch. Moi, en fait, Fortnite, j'aime pas. J'y ai joué. Hein. Ça me plaît. C'est rigolo, mais j'y passerai pas autant de... J'ai envie de revenir à Overwatch en ce moment. Alors, le problème, j'attends le patch de Shadow pour que ça marche mieux. Même si, en fait, il y a une manière hein, de faire fonctionner Overwatch sur Shadow, mais il faut juste que je m'y mette. Il y a un certain nombre de réglages à faire. Ça y est, hein, sur les forums, si vous voulez vraiment faire tourner Overwatch sur votre Shadow. Bref, fin de l'anecdote. Grosse mise à jour d'Overwatch qui arrive avec notamment un rééquilibrage des classes assez important. On sait que il n'y aura pas de mode Battle Royale sur Overwatch parce que c'est pas un jeu qui est designé là-dessus. C'est pas forcément des bugs de Shadow, mais en fait Overwatch a un système anti-cheat qui fait que un ordi sur le cloud peut, dans certaines circonstances, être reconnu, enfin identifié comme un espèce de surcouche qui viendrait sur ton Overwatch et du coup ça crée des écrans noirs qui t'empêche de jouer côté Blizzard. En tout cas, Shadow dit que le problème vient de l'anti-cheat de Blizzard, et ça fait 6 mois que ça traîne, ce serait à Blizzard de faire un correctif, de ce que j'en sais. Hein. Et apparemment, ils le font pas, quoi. Oui, il y a une option à désactiver dans les paramètres Windows. Mais il faut effectivement, c'est ce que tu dis, Jonathan, éviter de faire un retour au bureau. Donc, par prudence, il faut désactiver la touche Windows quand vous jouez à Overwatch. Mais j'en sais rien, Centaure, quand ça sera réglé. Tu sais, je pense que les gens de chez Shadow aimeraient que ça soit réglé depuis longtemps. Je crois avoir compris qu'ils allaient prendre les choses en main, ils allaient arrêter d'attendre Blizzard et qu'ils vont faire un espèce de patch anti-cheat. Donc, à voir. C'est ce que j'ai lu dans un courrier Shadow. Mais revenons au sujet. Donc, les grosses nouveautés... on va, en fait, la grosse nouveauté, il y a plein de trucs, mais ça serait long à vous expliquer, mais la plus grosse nouveauté, ça va être un système de notation des joueurs. Plutôt que d'avoir une notation punitive, c'est-à-dire donner la possibilité de donner des mauvaises notes à des joueurs, parce que, en fait, Blizzard a un vrai problème de session de jeu toxique, et vous l'avez tous vécu. On se met sur Overwatch pour se détendre un soir et faire quelques sessions de jeux vidéo. Et vous avez des petits connards colériques, 13 ans, qui gueulent dans tous les sens, qui se croient de 13 ans, de 9 ans. De... Et il n'y a pas que des jeunes, hein, y a des vieux cons aussi hein, sur Overwatch, hein, j'en connais. Qui se mettent à gueuler dans tous les sens, qui se prennent pour des bons, et qui... tu joues mal, Angel, donc je suis mort. Ouais, enfin, mec, tu te fous au beau milieu, là, avec la culotte baissée, et tu crois que les mecs vont pas te tirer dessus. Enfin, bref, on a tous connu ces trucs où des gens très toxiques, puis vous avez des mecs qui vous harcèlent derrière, qui essaient de vous faire de mauvaises réputations. Bref, jusqu'ici, il y avait un système de notation punitif qui permettait d'identifier ces mauvais joueurs. Effectivement, n'oubliez pas Flair de Guillaume Slash, qui essaye aussi de résoudre ces problèmes, la start-up de Guillaume Slash. Mais déjà, dans le jeu, il y avait un système pour essayer d'exclure les mauvais joueurs ou les joueurs toxiques, hein, les cancers. Là, ils vont opter pour un système plutôt positif de récompense avec plusieurs types de notations d'un joueur. Par exemple, quand un joueur accepte de jouer un tank ou un healer ou un support au lieu de jouer sa classe de personnage favorite, ça évite des parties complètement déséquilibrées. Moi, je suis plutôt un adepte du 2-2-2. Il y en a qui moins, mais bon, enfin bref. Un joueur qui sera fair-play aussi, vous pourrez noter des joueurs fair-play en face. Un mec qui vous salue après un bon kill ou... Voilà, on le sent tout de suite, un mec fair play en face. Bref, tout un système de notation, des gens qui jouent bien leur rôle, des gens qui sont sympas ou rigolos, vous pourrez noter comme ça les joueurs et pas uniquement sur leur skill. Parce qu'honnêtement, moi je veux le dire, je suis pas un joueur pro machin. Je préfère mille fois jouer avec des mecs qui jouent comme des patates, mais où il y a une bonne ambiance, où on se marre. Moi, j'ai souvent collé avec des équipes où les mecs se prenaient pas au sérieux. Ok, on n'avait pas des résultats. Savait quand même. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand ça joue pas collectif, quoi. Ça, Mais il m'est arrivé de me mettre dans des teams un peu tocards et de faire quelques parties avec eux parce qu'il y avait une bonne ambiance, il y avait un mec rigolo là-dedans et ce genre de truc. Et par contre, de fuir, mais des parties où les mecs ont vachement de skill, mais tu te fais gueuler dessus, parce que, mais ça va pas de se mettre à la sortie du tunnel B de cette carte, mais d'où tu sors, machin, mais je t'emmerde, petit con, je me mets où je veux, oh, pas me faire chier. Je suis toujours prêt à apprendre pour pouvoir mieux jouer, mais je déteste les mecs qui se prennent trop au sérieux alors qu'ils ont un rank de merde, quoi. Bref. J'ai arrêté les ranks à cause de ça. Finalement, vivement que le prochain Call of Duty sorte, on aura moins de gamins, c'est toujours ça de gagner. Petit... le petit con. Je suis énervé. Ah, tu sais, moi, les parties, il faudrait que je me filme un jour en train de jouer à Overwatch. Je pense que vous rigoleriez bien. Ouais, je suis un peu nerveux. Ça me donne très envie de jouer Overwatch, là, d'en parler. J'ai pas le temps aujourd'hui. Putain, j'ai plus le temps. J'ai trop de travaux à faire à l'atelier. Je peux plus jouer aux jeux vidéo. Sauvez-moi. Bref. Bon, et puis il y aura plein d'autres modifications, effectivement, d'Overwatch. Nouvelle carte, une map horizontale a connu une refonte pour équilibrer la dernière. Le personnage de Symmetra connaît des changements avec une modification des tirs principaux et secondaires. Une nouvelle capacité ultime sera proposée pour Symmetra. Ah, moi, je la trouvais bien, Symmetra. Bah, je sais pas la jouer, mais je trouve que c'est un personnage... intéressant. Quelle est votre classe? Quel est votre personnage préféré d'Overwatch? Petit sondage pour terminer ce Techscope. Ceux qui jouent, hein. Vous jouez majoritairement quel personnage? Allez, les joueurs d'Overwatch ou les anciens joueurs de Moira, les anciens joueurs d'Overwatch qui sont passés à Fortnite, revenez sur Overwatch. Tracer, ouais, c'est un chouette perso, Tracer. Jongrad, Brigitte ou Moira? Brigitte, je ne l'ai pas encore joué, moi. Prochain jeudi Tipeee, tu nous fais un live stream. C'est une idée. Peut-être pas aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, il y a jeudi Tipeee hein, ce soir. Mais un jour, ouais, je vous ferai ça. Soldat 76. Écoute, j'aime bien aussi hein, Soldat 76. Diva, c'est mon personnage préféré. Hein. Moi, Diva. Winston, May. Jamais joué à Overwatch parce que j'ai pas de PC sous Windows. Prends un Shadow. Enfin, attends que Shadow ait résolu ses problèmes avec Overwatch. Enzo, alors je l'ai essayé de le jouer, je suis pas assez bon. Enfin, il faut vraiment être bon pour avoir un Enzo intéressant. Le problème, c'est que c'est un personnage tellement mal joué la plupart du temps que quand j'en vois un dans l'équipe, je me dis, oh putain, on va perdre. Team Fortress 2, c'est mieux. Ouais, mais ça a mal. Moi, je trouve ça a mal vieilli. J'ai essayé de le relancer l'autre jour, je trouve ça a mal vieilli. T'as GeForce Now? Bah déjà, tu peux jouer à Overwatch, a priori, avec GeForce Now. Non? Ah, ils l'ont peut-être pas dans leur catalogue, GeForce Now. Hein, je sais pas. J'ai juste fait la bêta d'Overwatch. Tu préfères jouer à Splatoon? Jamais joué. Ça a super mal vieilli. Ouais, Team Fortress, je trouve ça très mal vieilli. Ça reste fun, hein, mais... ça pique un peu les yeux et c'est un peu limité quand même. Quand tu connais maintenant la nervosité des FPS, c'est un peu difficile, quoi. Left 4 Dead 2. J'ai même pas joué au Left 4 Dead 1. C'était une époque où j'étais à fond sur World of Warcraft et j'avais pas le temps pour les autres jeux vidéo. Ça peut être intéressant, Austracien, que tu testes Shadow après GeForce Now pour voir si tu as des meilleurs résultats. Ouais. GeForce Now, c'est gratuit pour le moment, mais catalogue pauvre. Ouais. Et le problème, c'est que ça risque d'être toujours lié à un catalogue. C'est pas la même chose. Shadow, c'est quand même un vrai PC entier sur le cloud. GeForce Now, c'est pas tout à fait ça quand même. Je jouais quoi sur... Ben, j'avais deux personnages vraiment principaux. Alors, mon personnage historique, c'était une Hunter. J'ai toujours adoré jouer Hunter, même quand ça a été complètement gimpé à mort. Je jouais quand même mon Hunter, mais plus personne ne voulait de moi dans les raids. C'est pour ça que j'ai fondé... En fait, j'ai fondé ma guilde pour pouvoir être pris dans les raids avec un Hunter à une époque. Mais j'aimais aussi beaucoup jouer, je jouais un prêtre heal nain, c'était mon deuxième personnage. Voilà, mais Hunter restait quand même ma classe favorite. Tu connais Total Biscuit par hasard? Ça me dit vaguement quelque chose. Enfin, si tu veux me parler des youtubeurs qui ont joué à World of Warcraft, ça va faire une flopée. Hein. Prêtre Home Power. Alors, j'avais les deux templates. Hein. J'aimais énormément les arènes. J'ai connu aussi la période où pré-arène, où on faisait des combats à moulins de Taren, si mes souvenirs sont bons, mais pas du tout organisé. Genre, le serveur se mettait là-bas et on se tapait sur la gueule, parce que j'étais sur un serveur PVP. J'étais sur Shogal. Oh, c'est marrant, j'ai l'impression de parler. C'est ça, j'en étais sûr. World of Warcraft, ça t'imprime tellement la tête que t'as l'impression de parler de vieilles vacances. J'étais pas sur la vanilla, mais j'ai commencé assez tôt quand même à World of Warcraft. Et j'ai connu les Alterac qui duraient 72 heures et tout ça. Ah, t'étais aussi sur Shogal. Bah, moi, j'avais fondé la guilde toxique sur Shogal. T'as vu le tag quelque part. J'en ai même fondé deux ou trois des guildes. Il y avait aussi, comment ça s'appelait, Apogée. Il y avait Apogée et Toxique. C'est les deux seuls dont je me souviens. Tu comprends plus rien. Ah, c'est vrai que les gens qui n'ont pas joué à World of Warcraft, là, vous êtes paumés. C'était la bonne époque. Allez, c'est la fin de ce Techscope. Je réponds en priorité. J'ai oublié ton nom, mais je n'ai pas oublié ta question. Je réponds à ta question. Tu me posais la question sur le ROD Reporter, c'est ça? Tu veux parler du truc Wi-Fi Reporter? Franchement, c'est un excellent produit, hein. Moi, je l'ai acheté. Ça peut même remplacer, en fait, pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, c'est un module Wi-Fi qui permet de brancher soit un micro à main. Vous me voyez, par exemple, quand j'ai fait le truc Dolby. On me voit avec un micro à main et un truc qui est branché sur le micro à main. Ça, c'est le Rode Reporter. Et ça permet de me connecter à un récepteur sur sur ma caméra et donc d'avoir une connexion Wi-Fi. Mais là où il est génial, ce truc, c'est qu'il y a aussi une prise jack. Donc, tu peux l'utiliser sur ta ceinture arrière comme un émetteur pour un micro-cravate. Donc, je sais que, par exemple, moi, quand je pars sur un salon, maintenant, j'amène plus que le reporter. J'amène plus mon boîtier émetteur micro-cravate, puisque le reporter peut le remplacer. Le Sony RX, le 6, le 7, c'est le... Non, c'est le... On en est au combien, là? C'est le 7, ouais. Le 7, j'en ai pas parlé, parce qu'il aurait fallu en parler hier. Hein. Les annonces, c'était hier. J'en ai pas parlé, il a l'air pas mal, il est très cher. Par contre, il n'y a pas de prise micro et... Pourquoi ils n'ont pas mis de prise micro? Là, je parle pour moi. C'est un produit qui m'aurait... C'est le 6, oui. C'est un produit qui m'aurait vachement intéressé s'il y avait une putain de prise micro, mais non. Il est quand même très cher, hein, 1 200 €, quoi. Est-ce qu'il y a une question Platinium ce matin? Je crois pas. Je vais vérifier quand même avant de prendre vos autres questions. Avant de prendre vos autres questions. Mais je crois pas qu'il y ait de questions Platinium. Non, il n'y a pas de question Platinum. Alors, je prends vos questions. Reposez-les. Hein. Est-ce que je suis passé iOS 12? Non. Moi, j'attends peut-être la bêta publique, mais je passe pas mon téléphone principal sur un truc qui est en bêta développeur. Il me sert trop dans mon boulot pour risquer quoi que ce soit. As-tu essayé de lire des vidéos YouTube 4K UHD sur Safari ou Firefox? Il est plus possible de les lire sans Chrome. J'avoue que je regarde rarement 4K, donc j'ai pas essayé. Non, j'ai pas essayé. Le système Twitch de pub non bloquable va-t-il se généraliser? À mon avis, oui. Oui. Bah, il faut bien qu'ils essayent de gagner de l'argent. Hein. 1 300 € même, le Sony. Moi, je trouve ça très, 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 très cher quand même. Après, il est bien hein, pour... Enfin, il est bien. Il est bien pour son rapport, on va dire, qualité-poids. C'est un bijou technologique. C'est ce que vous avez dit, Tristan, dans le test du 5. C'est un bijou de miniaturisation. De voir toutes les possibilités sur un objet aussi petit, ça a quelque chose de fascinant. Mais après, ça a quand même les inconvénients d'un objet petit. Hein. À manipuler, c'est pas facile. On est là dans les menus. C'est ce que j'avais dit quand j'avais testé le 3. Un bon micro à moins de 50 €. Tu sais, ta question, elle n'est pas bonne. Il faut que tu dises un micro pour faire quoi exactement? Les micros, c'est comme les objectifs. Si les micros ont des formes et des technologies différentes, c'est pour prendre différents types de voix dans différentes situations. Ouais, bah iOS 12, je me méfie, hein, moi, des bêta développeurs. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai crashé mon phone. Donc, à la limite, je ferais peut-être avec mon iPad, mais pas avec mon iPhone, qui est mon téléphone principal. On sait rien sur la batterie, mais ça sera sûrement... Ah oui, ça a toujours été un gros problème quand même des RX 100, c'est que leur batterie, notamment en vidéo, tu fais 10 minutes de vidéo, quoi. Je sais que quand on était parti avec en Asie, je crois que j'avais amené 4 batteries pour le... Et juste pour les photos. Pour pas que Marion... C'est Marion qui l'utilisait au Vietnam. Et juste pour qu'elle tombe pas de batterie pendant la journée. Juste avec des dons, c'est incroyable qu'ils arrivent à survivre. Il y a des discussions parallèles. Ah, tu parlais de Twitch. Oui, ça devait être la discussion sur Twitch. Arnaud, merci pour ton super chat. As-tu testé le VPN de Pornhub? Non. Mais je ne te dirai pas si j'ai pas testé le VPN ou si j'ai pas testé Pornhub. les batteries externes type Anker ou OK pour recharger, c'est bien? Oui, oui. Ce n'est pas la marque que j'ai. Je suis en train de tester là en ce moment une batterie qui est étanche et qui a en plus un chargeur solaire qui est pas mal. Mais alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Je ne pourrais même pas vous dire de tête. C'est un peu difficile de rater un chargeur, hein, honnêtement. Quel boîtier compact expert pour de la vidéo du coup? Ben, le problème souvent, c'est que il y a très peu de compacts, voire pas de compacts, qui ont une prise micro. Donc je peux. Moi personnellement, je ne conseillerais jamais à quelqu'un qui fait de la vidéo de prendre, en tout cas en caméra principale, une caméra qui n'a pas de prise micro. Sauf si effectivement tu filmes que des trucs muets ou sur lesquels tu vas rajouter de la musique derrière ou que des trucs de sport, là t'as pas besoin de micro si t'es sûr que tu n'as aucune captation son à faire. Quand tu as besoin de ton iPad en extérieur, qu'est-ce que tu prends avec? Pas grand-chose. Il a une cover et j'ai le stylet qui est toujours dans le sac. Voilà, c'est tout ce que je prends quand j'utilise en extérieur. Et mon clavier, mon petit clavier bleu dont j'avais fait le test sur la chaîne. Il y a des grosses discussions sur les possibilités de lire du YouTube en 4K, manifestement. Le X100F Fuji a une prise micro. Je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas te dire. Est-ce que je connais une app pour Mac ou Windows permettant de stream de musique comme si c'était une radio? Ah non, je ne connais pas. Peut-être que la chatroom peut t'aider, mais moi j'ai un service payant de streaming musical... Je fais pas plus que ça. Et qui me permet en plus d'avoir des systèmes un peu genre radio. Comment tu fais avec ton iPad quand on te tend une clé USB? C'est pas de la provoque, j'ai un iPad aussi. Je demande, alors si les gens veulent m'envoyer un truc, je leur dis, ben envoyez-moi ça par mail ou sur le cloud ou par WeTransfer ou autre chose, quoi. De toute façon, d'une manière générale, je ne mettrai même pas dans un ordinateur qui a une prise USB, une clé USB qu'on me tendrait. Même si la personne je connais. Surtout en ce moment où il y a pas mal d'ordi qui se font griller par des clés USB. Et aujourd'hui, honnêtement, voilà, les fichiers, c'est assez facile à transmettre sur le cloud, quoi. Je dis pas, il y a 2 ans, c'était très pénalisant, mais aujourd'hui, moins. La grosse annonce de Canon, un 70-200. Ouais, j'ai pas encore lu les caractéristiques du 70-200. Je pense pas que c'est leur grosse annonce, mais on verra. Tu me conseilles quoi pour l'achat d'une télé? De regarder une autre chaîne que moi. Peut-être Pepe Garcia. Moi, je teste pas de TV, j'y connais rien. Donc, je peux pas t'aider. Un stylet, ça marche pour l'iPad Air 2? Non. Alors, Michaelina, le stylet, le pencil d'Apple ne marchera pas. Mais après, tu peux avoir des stylets à l'ancienne, avec le gros embout en caoutchouc qui simule un bout de doigt. Ce qu'on appelle le capacitif, ça marchera, oui, sur un 2. Je ne sais pas si tu as vu la news, DxO, arrête le DxO One. Ah ouais, merde. Non, j'ai pas vu la news. J'ai pas vu la news. C'est con parce que c'était prometteur, effectivement. J'aurais aimé qu'ils sortent une version 2. Il y avait une très bonne idée derrière. Mais ouais. Il y avait une très bonne idée, mais comme j'avais dit dans mon test, le produit était un petit peu bâtard dans son positionnement quand même. Et c'était cher quand même, hein, au lancement. Allez, je vais vous laisser là. Beaucoup de choses à faire. Normalement, alors oui, si, quand même. Jeudi Tipeee ce soir pour les contributeurs, 18h, rendez-vous live privatif. Pour les contributeurs, vous retrouverez la news et le lien de ce live privatif sur la page Tipeee, dans les news Tipeee. Donc rendez-vous ce soir pour les contributeurs. Il devrait y avoir une vidéo aussi aujourd'hui. Vidéo, allez, je vous spoil un peu le truc. Pensez bien à me suivre sur Instagram, parce qu'il va y avoir un truc à gagner pour cette vidéo, avec cette vidéo. Pour une fois que je fais un jeu concours, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, go me suivre sur Instagram aujourd'hui. C'est instagram.com/JeromeKenborg. Et vous pourrez jouer sur Instagram pour gagner. T'as pas Instagram, eh ben pas de bras, pas de chocolat, pas d'Instagram, pas de cadeau. Voilà. C'est tout, Yves. Désolé. Faut avoir Instagram. Méchant. Et ça va, la dernière fois, je vous ai fait un jeu sur Twitter. Je panache. Hein. Mais si vous faites du blocus de certains réseaux sociaux, c'est quand même pas ma faute, nom de nom. Hein. Regardez, moi, je donne tout mon data à tout le monde. Je suis partout. Omniprésent. Le concours sur Google Plus. Ouais, ça, il faudrait oser quand même. Je suis pas, parce que vous le savez, hein, j'espère que vous le savez, mais quand on organise des jeux concours, c'est pas nous qui payons les trucs, on fait ça pour une marque. Hein. Quand les youtubeurs vous disent ouais, salut les petits amis, mais comme je suis généreux, je t'offre un iPhone, c'est pas lui qui le paye. Hein. Juste. Faut être au courant de ça quand même. Là, je te jure, il y en a qui croient que il y a des youtubeurs généreux, quoi. Sauf sur une chaîne à 1000 abonnés. Tu sais, même, hein, ils arrivent à avoir des deals sur des jeux concours. Le jeu concours, c'est quelque chose d'extrêmement rentable pour les marques. Pour le prix, pour le prix d'un produit, ce qui leur coûte pas bien cher. Ça leur fait une campagne de pub gratos. Ça, il faut quand même le réaliser. Alors moi, là, je l'ai fait, je vous spoil un peu, avec Logitech, parce que je le fais pour un but aussi pour moi. Je veux vraiment booster mon Instagram. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir mettre des liens dans Instagram. Et en plus, c'est un chouette produit chez Logitech à faire gagner. Et ça me fait plaisir. Voilà, je l'ai acheté du coup pour vous faire plaisir, parce que je suis comme ça. J'aime donner. Cherche Jérôme Nautech sur Instagram. Sinon, c'est Jérôme Kenbock, c'est J-E-R-O-M-E-K-E-I-N-B-O-R-G. Oui, je continue le test de la Surface Pro. Tu vois, c'est la Surface Pro que j'utilise ce matin. Le Wii Transfert, tu l'as pas reçu. J'ai pas eu ta réponse ce matin, hein, Tristan. Je m'en occupe en sortant de ce Techscope. Et ouais, ma générosité me perdra si elle ne m'a pas déjà perdu. Sur ce, je vous fais de gros... En plus, c'est sympa mon Instagram parce qu'il y a des chouettes stories. J'étais chez l'Homographie hier, vous pouvez voir les coulisses et tout. Cool. Le mec qui essaye de vendre son Instagram à donf. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour le dernier Techscope de la semaine. Et ce soir, pour les contributeurs, jeudi Tipeee, hein, 18h. Ciao tout le monde. Ciao.